Non, Bernadette,
Ah oui, c'est vrai, ouais. Non, mais c'est bon, laisse-le là. Ouais, laisse-le là. C'est bon, là. Bon, bah, on commence. Ah, si la technique suit pas, ça va pas le faire. Ouais, la télé, hein.
Il était pas allumé.
À la messe. Tu me dis, Michel, qu'on est bon. Ok. Bon, donc on va. Donc c'est la première conférence de presse de la liste La Commune est à nous. Donc on va en fait expliquer pourquoi en fait on est là et qu'est-ce qu'on entend faire. En septembre, en fait, on a été un certain nombre à organiser un forum pour dresser en fait le bilan des politiques municipales, tant au niveau écologique, social et démocratique. Et donc on s'est réunis pendant 4 heures à la Maison des Associations. Et le bilan en fait de cette journée, ça tout le monde en fait est arrivé au bilan qu'il fallait faire une liste en fait aux élections grenobloises et porter en fait deux choses essentielles, la démocratie directe et l'écologie et le social comme priorité essentielle et non pas comme faire valoir pour une élection. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on s'est mis en branle et on a travaillé tout le trimestre pour organiser en fait ce qui n'était pas encore une liste en fait au départ. C'était on essayait de voir ce que ça allait donner, si on arrivait à se mettre d'accord. On était d'horizons assez divers, hein, tant au niveau parti politique, citoyen, associatif. Et puis donc le résultat de ce travail-là, ça a été donc une organisation en fait de la campagne qui est décrite dans ce document-là qu'on distribuera à 40 000 exemplaires en fait dans la à Grenoble. Donc là, on a un pré-tirage à vous montrer. Donc on va dire que la chose essentielle en fait de cette liste, c'est que c'est de notre point de vue la liste qui sera la plus démocratique en fait des listes pour les élections municipales à Grenoble. Alors pour quelle raison? Bah parce qu'en fait, la plupart des décisions sont prises en assemblée, en fait, en assemblée et ouvertes à tous. Donc ce qui est pas du tout le cas de toutes les autres listes qui soit décident de manière obscure en fait de leur candidat ou décident de leur programme, on ne sait pas trop comment quoi. Il y a des comités des sages, donc soit de manière totalement obscure, soit des comités des sages dont on ne sait même pas qui les constitue et dont on ne sait même pas comment ils fonctionnent. Donc en ce qui nous concerne, tout sera transparent, c'est-à-dire que les débats auront lieu en public et les décisions seront prises au cours d'une assemblée. Donc ça c'est pour les principes généraux. On a déjà commencé en fait à travailler comme ça, puisque on a mis au point en fait un manifeste quand même qui nous réunit tous. Et ce manifeste, on l'a voté et amendé au cours d'une assemblée fondatrice qui s'est tenue le 20 décembre à la Salle Rouge. Donc le texte qu'on avait proposé initialement, juste pour montrer en fait, le texte qu'on avait proposé initialement a été vraiment amendé, vraiment changé, et il y a eu un vote. Donc on a voté en fait pour ce manifeste. Ça, à votre disposition, tout ce qui est en jaune, hein, c'est ce qui a été rajouté, corrigé, etc., etc. Donc là, on a, et sur toutes les pages, hein, c'est pas rien, hein. Voilà. Donc on a vraiment mis en fait en œuvre les principes qu'on entendait faire en fait, et qu'on entend aussi, il faut le dire, qu'on entend mettre en place au-delà même de la campagne. On entend ce que les élus, mais les autres porte-paroles en fait développeront un peu plus que moi, et que les assemblées perdureront en fait au-delà en fait de l'élection et travailleront avec les élus. Donc, alors si on donc là on a fait l'assemblée fondatrice. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire en fait pour le moment? Alors ça nous ralentit beaucoup, on va dire, par rapport à une campagne officielle, mais en fait c'est essentiel. C'est ça qui fait que on est vraiment porteur en fait d'un message de démocratie directe et qu'on le met en acte. Et donc on va organiser trois assemblées populaires, donc dans trois quartiers différents, et on va à ce moment-là en fait discuter le programme, discuter la liste. Mais ces trois assemblées serviront d'abord à des discussions préparatoires. On prendra toutes les suggestions et tout ce que les habitants en fait à ce moment-là nous diront sera enregistré et sera on fera une synthèse en fait qui sera proposée à l'assemblée décisionnaire qui elle aura lieu le 15 février. À quel endroit déjà? Je me souviens plus.
750.
750. Voilà, juste à côté d'ici. Donc voilà, donc démocratie directe et réellement en acte. Je passe la parole à
Ouais.
Marion.
Micro.
Ah oui, il faut passer le micro, oui. Pardon, excusez-moi.
Oui, donc moi je vais revenir un peu sur la démocratie directe, parce que c'est un de nos deux piliers pour le collectif. Alors avec ce principe, on est vraiment en totale rupture avec ce qui existe au Grenoble et dans beaucoup de communes. Et quand on parle de démocratie directe, il ne s'agit pas seulement d'être consulté ou de voter pour une partie minime d'un budget. C'est vraiment s'impliquer directement dans la politique de la ville. Et en fait, ça répond à une volonté qui s'est manifestée en France et dans d'autres pays l'année dernière avec le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont vraiment insisté par des revendications comme le RIC sur la volonté d'en finir avec la République représentative, mais de venir à des formes de démocratie directe. Donc en fait, le principe de démocratie directe, c'est quelque chose qui n'est pas seulement défendu par des groupuscules d'extrême gauche, c'est vraiment quelque chose qui est ardemment voulu par la population. Et en fait, les individus, ils ne veulent plus laisser le soin à d'autres personnes de décider à leur place. Maintenant, ils veulent être présents dans la prise de décision pour les choses qui les concernent directement. Parce que le problème, c'est quand on délègue à des personnes trop éloignées des difficultés quotidiennes, on arrive à des mesures qui peuvent être aberrantes ou injustes. On voit par exemple à la réforme des retraites, où maintenant, on trouve ça normal que des gens qui ont travaillé 40 ans, ils gagnent que 1000 euros et qu'ils doivent se satisfaire de ça et que c'est très bien. Voilà, donc il y a vraiment une volonté des citoyens d'aller plus loin dans les processus démocratiques, et aussi bien au niveau national que communal aussi d'ailleurs. Et c'est pourquoi notre collectif a réfléchi à différents moyens afin de pouvoir impliquer les citoyens, mais aussi les militants associatifs, parce qu'on a un gros tissu associatif sur Grenoble qui est très engagé dans beaucoup de luttes. Donc il y a vraiment des gens qui seraient prêts aussi à aller plus loin dans la politique de la ville. Ce serait ouvert aussi aux militants politiques. Et voilà, donc comme l'a dit Bruno, après l'élection, si on a des élus, il y aura toujours une assemblée populaire souveraine qui fixera le contenu des interventions des élus et qui contrôlera les élus. On a aussi pensé à d'autres dispositifs comme le RIC, sans quorum, mais ça c'est un détail, la rotation des élus, des commissions qui soient ouvertes aux citoyens. Non, après, moi, je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que les mesures de la démocratie directe, elles seront décidées, en fait, par les assemblées populaires souveraines. Nous, on ne livre pas encore des éléments trop précis du programme parce que ça, on va décider tous ensemble par la suite. Voilà. Donc, je vais faire un tour.
Et le deuxième pilier qu'on veut mettre en avant, c'est la question du lien entre cette démocratie directe qui va forcément pair avec des mobilisations sociales et avec des luttes populaires. D'abord parce qu'on sait que pour n'importe quelle politique ambitieuse de rupture à gauche à l'échelle municipale, il y a énormément d'obstacles. Ces obstacles, c'est ça par exemple la question du budget qui est contraint, la question des lois ou des réglementations décidées à l'échelle nationale. C'est ceux qui ont beaucoup servi d'excuse à la majorité de Chiolle pour ne pas mettre en place la politique ambitieuse qu'ils prétendaient vouloir mettre en place. Nous pensons qu'au contraire, il faut mettre en place une politique ambitieuse et ça ne peut que s'appuyer sur des mobilisations qui permettent de dépasser ces obstacles. Ça ne peut que s'appuyer sur le fait d'encourager, de soutenir les luttes sociales à l'échelle locale et pas seulement. Et ce sont ces luttes en réalité qui peuvent vivifier la démocratie directe, qui peuvent lui donner sens. Et que c'est ça qui devrait être le rôle d'une municipalité combative. Ça, c'est un point qui est évidemment essentiel. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la primeur de notre manifeste, la première fois qu'on l'a distribué, ça a été pendant une manifestation contre la réforme des retraites. Parce qu'on pense que ce sont des moments forts et que, par exemple, justement, ce mouvement contre la réforme des retraites, dans lequel nous participons largement, que ce mouvement-là, qui est d'ailleurs dans la lignée d'autres mobilisations, notamment celle des Gilets jaunes, ça montre la disponibilité, ça montre la force du mouvement populaire sur lequel nous souhaitons nous appuyer de façon extrêmement large. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, la volonté de commencer cette campagne-là, de faire une liste et de participer à cette campagne-là, elle est née lors de luttes sociales locales. La question des bibliothèques, notamment la bibliothèque de Prémol, lors de la fermeture de la bibliothèque de Prémol, avec tout ce que ça comporte, d'attaques contre le droit à la culture, dans les quartiers populaires, etc., c'était quelque chose qui a donné envie de dire, ben voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour avoir un autre discours. Alors j'utilise cet exemple-là, mais en réalité, il est évident qu'il y a une multitude de luttes sur lesquelles nous pensons important de nous appuyer, que ce soit sur la question du logement, et là encore notamment dans les quartiers, que ce soit sur la question écologique. Alors encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails de nos revendications parce qu'on construira ça collectivement, mais toute une série de luttes sur lesquelles on pense qu'il y a des choses importantes à faire qui ne sont pas faites par l'écologie de façade actuelle. Que ce soit sur la question de la défense des migrants, sur la question des services publics locaux, sur la défense de la clinique de la mutualité, etc. etc. Donc, cette question de la confiance dans les luttes, c'est pour nous, avec la démocratie directe, ce sont les deux piliers de la campagne, telle qu'on veut la faire, et telle aussi qu'on pense que doit être menée une gestion conséquente d'une politique municipale.
Eh bien, écoutez, pour rajouter un peu, juste un petit peu à tout ce que, qui vient d'être dit, etc., je pense que l'affiche qui est derrière nous, la communauté à nous, sociale détruite, écologie de sa famille, démocratie en carton, etc., je pense que c'est le mot clé de ce que nous sommes. On a vu, comme on dit d'habitude, il ne peut pas avoir de démocratie politique sans une démocratie économique ou sociale. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que cette démocratie-là, ça n'existe pas. C'est pas Il n'y a pas de démocratie économique, il n'y a pas de démocratie écologique, il n'y a pas de démocratie, de la population qui est vraiment la base de la société elle-même, aujourd'hui qui est laissée tomber, qui est rejetée et qu'on n'écoute plus. Aujourd'hui, notre ambition, c'est effectivement de donner la parole, de revenir à la source de la démocratie, qui est le pouvoir par le peuple, décidé par le peuple et exécuté, contrôlé sous le contrôle du peuple. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et on a décidé, comme disaient les camarades, c'est pas quelque chose qu'on a commencé maintenant, qu'on va s'arrêter juste après les campagnes municipales. Non, c'est un début d'une redynamisation de la démocratie et ça va continuer. Et on espère qu'il y aura d'autres personnes, d'autres militants aussi qui seront conscients de qu'est-ce que c'est ce travail. C'est pas facile, mais on sait que ça peut marcher parce qu'on a déjà vu l'exemple ailleurs. Et donc c'est très important qu'on coupe le fil entre l'avis de la démocratie, parce que parfois c'est ce qu'on constate, parce qu'il y en a qui parlent de la démocratie, mais alors qu'au fond, c'est pas la démocratie. Les décisions sont prises sans les concerner eux-mêmes, exécutées sans eux, et qui n'ont même pas la parole pour s'exprimer. Et moi, je pense qu'il est temps de rompre avec cette politique et de revenir en arrière à la source de la démocratie, donner la parole au peuple et pour qu'ils décident vraiment ce qui est de mieux pour eux, et pas de décider à leur place.
Oui, donc je voulais amplifier un peu notre idée en disant que, évidemment, vous allez être déçus, on ne va pas vous présenter une liste à la Prévert avec plein d'engagements. Comme ça a été fait en 2014, il y avait 110 engagements, et sur les 110 engagements, cherchez ceux qui ont été 120, pardon, j'en oubliais 10. Donc 120 engagements, et sur les 120, cherchez combien il y en a qui ont été mis en œuvre, notamment dans « Nous ouvrirons d'autres bibliothèques ». Le contraire a été fait, puisqu'on en a fait, il y en a qui ont fermé. Nous serons un employeur exemplaire. Il y a eu un vaste plan social qui a été mis en place, appelé plan de sauvegarde, mais on a quand même supprimé 150 emplois, il me semble, à peu près, en gros, à la mairie. Donc, ça ne sert à rien de s'engager sur des choses si, in fine, on fait ce qu'on veut derrière. On vote pour des décisions qui vont être prises et elles ne sont pas prises. Donc, nous, ce qu'on vous offre, justement, c'est la possibilité de nous dire « Stop, on n'est pas d'accord sur ce que vous faites ». On veut ça et ça. C'est pour ça que ces assemblées continueront, perdureront donc après l'élection pour que nous demandions aux Grenoblois et aux Grenobloises ce qu'ils pensent de notre action, ce qu'ils nous suggèrent de faire, ce qu'ils nous suggèrent d'arrêter de faire. Je pense que là est la démocratie, parce que c'est trop facile de crier à qui veut l'entendre « Vive le RIC, c'est super, c'est la démocratie ». Et lorsqu'on applique ce RIC à Grenoble, la première chose, lorsque des militants, des collectifs veulent faire un RIC, non seulement on ne les aide pas, mais on les critique et on ne tient même pas compte du vote in fine de ce RIC. Donc c'est un peu facile d'être démocrate de façade et de détruire la démocratie dès qu'on en a l'occasion. Voilà.
Je vais juste ajouter une chose. C'est bon ?
Non, je t'en viens.
Oui, donc j'ai oublié deux choses importantes en fait tout à l'heure dans les motions. C'est un, qu'en fait on avait choisi aussi le nom de la liste et qu'il avait été adopté par vote. Et donc il y a eu même il y a eu trois propositions, donc c'était pas non plus de la blague. Et la deuxième chose, c'est qu'on va, voter le programme en fait en assemblée décisionnaire et on va aussi voter la liste. C'est-à-dire que c'est pas non plus rien, c'est-à-dire que autour de la table, comme le disait Bernadette, pour le moment on ne sait pas qui est candidat. Et on sait encore moins qui est tête de liste.
Voilà, je pense qu'on...
Tu prends le micro.
On va plus prendre nos petites paroles comme ça, les uns après les autres. On va vous laisser poser toutes les questions que vous voulez.
Je pensais que quand vous choisissez un endroit pour l'instant de campagne, si jamais par hasard, pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui, au patio, au cœur du quartier?
Thank you.
Qui veut répondre à la colle? Ah, pourquoi on a choisi ce lieu-ci pour faire la conférence de presse?
Alors pour nous, c'est une évidence puisque notre liste, elle met en avant la démocratie directe. En France, à Grenoble, c'est pratiquement une des seules mises en pratique d'un RIC qui a été un grand succès. Donc c'est une valeur extrêmement symbolique. Voilà, c'est pour ça qu'on est ici.
Vous avez un peu évoqué le côté écologique. Qu'est-ce que vous proposeriez? Je sais que vous n'allez pas énoncer forcément toute une liste à la tenir, mais qu'est-ce que vous feriez de mieux que ce qui a été fait, ou dans l'absolu, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez l'intention de faire?
Encore une fois, sur les questions des... Alors, on a évidemment quelques idées, notamment il y a beaucoup de gens par ici, par exemple, qui sont mobilisés, qui participent au collectif pour les transports publics gratuits. Donc évidemment qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a des envies de programme. Encore une fois, on a bien envie d'abord de discuter de ça avec les gens qui vont vouloir venir à l'Assemblée populaire. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas très précis là-dessus. Cela dit quand même, il y a une double dimension à la fois écologique et sociale qui nous paraît absolument inévitable de mettre en place et de systématiquement avoir en tête. Et là-dessus, si on regarde un petit peu en négatif le bilan de la municipalité actuelle, c'est assez caricatural. On a une quelque chose qui est une écologie de façade qui en réalité est extrêmement peu dirigée envers la population, envers les quartiers populaires. Et alors ce qui fait que lorsque, par exemple, on décide de rénover au niveau qui est un élément écologique, de rénover, en fait on détruit les logements sociaux. Lorsqu'on fait des pistes cyclables, on est évidemment pour développer le vélo, on les fait d'abord en centre-ville, on les fait d'abord dans les quartiers où habitent les populations la plus favorisées. Et je pourrais multiplier les exemples d'une dimension qui est une dimension écologique. Alors voilà, l'actuel projet, quasiment délirant, de mettre des puces dans les poubelles, par exemple, pour comptabiliser et faire payer des impôts là-dessus. On est dans une écologie, enfin la puce électronique comme symbole écologique, c'est quand même assez caricatural. Donc voilà, on a ici une écologie qui est une écologie, j'ai envie de dire, bourgeoise. Voilà, une écologie qui, en effet, n'est pas à risque de sa population, qui n'a pas de contenu social. Et nous, à l'inverse, on a en effet une volonté d'avoir cette écologie qui soit une écologie qui est pour tout le monde, avec tout le monde. Donc une écologie en effet sociale et socialiste, enfin, en tout cas socialisante pour tout le monde. Donc voilà, l'exemple des transports publics gratuits, enfin, il y a un exemple qui est extrêmement parlant pour ça. Ça mêle les dimensions écologiques, les dimensions d'aménagement du territoire, les dimensions sociales. Et en effet, voilà, c'est un des éléments qui nous paraît important.
Il y a une mesure assez emblématique qui a été prise pendant ce mandat, dans cette majorité, c'est les zones à faible émission d'énergie. C'est une écologie qui vise directement les classes populaires. C'est-à-dire que les véhicules les plus anciens diesel sont évidemment présents dans les couches de la population les moins favorisées, et c'est la première mesure écologique qui est prise sur la voiture. Donc en fait, symboliquement, c'est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'on va d'abord punir les pauvres, et après ça, on va éventuellement aller sur d'autres mesures. Donc, s'il y a une volonté de diminuer le transport voiture et aller sur du multimodal, bien sûr qu'on est d'accord. Mais on ne peut pas commencer symboliquement par cette mesure-là, c'est catastrophique. Et quand vous regardez autour de vous les gens qui ont ces véhicules, ce sont des gens qui ont très peu de moyens. Moi, je connais énormément de jeunes qui sont des précaires, qui ont ces véhicules, des gens qui font les saisons en station, qui vivent dans ces véhicules. Donc, ces véhicules-là n'ont même plus le droit de rentrer dans la métropole. Donc ça, c'est extrêmement grave. Voilà.
Sur un autre sujet, par exemple, le PLUI, qui vient, donc le plan local d'urbanisme intercommunal qui vient d'être adopté, se satisfait en fait d'avoir réduit la diminution des terres agricoles. C'est absolument insatisfaisant. Il faudrait la stopper, purement et simplement. Donc c'est ce genre de choses-là, en fait. Ce que je dis n'est pas spécialement social, encore que, à partir du moment où on stoppe en fait la diminution de terres agricoles, on peut penser à cultiver sérieusement en fait en local, et à ce moment-là développer peut-être par des services municipaux de l'alimentation en fait municipale. Mais tout ça, c'est des idées en fait qu'on mettra sur la table au niveau des assemblées. On vous dit ce à quoi on a déjà pensé, mais on ne peut pas non plus trop s'avancer. Parce que peut-être ça sera invalidé, peut-être ça sera rediscuté. Donc, et c'est ça aussi qui est important.
bien sûr.
Et puis, moi, je pense que par rapport à l'écologie, je pense que c'est vraiment important que ce sujet soit pris très, très au sérieux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la question de l'écologie, c'est pas vraiment très pris au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui polluent le plus, c'est eux qui décident pour l'écologie. Alors que ceux qui subissent vraiment, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de polluer. C'est juste pour caricaturer un peu. On demande à un village de faire les efforts toute l'année sur l'écologie, etc. Mais effectivement, c'est une très bonne chose. Mais il y a un paquebot qui passe. Son seul passage pollue plus que la pollution de toute une année de ce petit village. Et pourtant, on ne demande rien à ce paquebot. On demande au petit village de faire des efforts. Donc moi, je pense qu'il est temps que l'écologie soit prise très au sérieux. Parce que si c'était d'autres sujets, comme les sujets de banque, etc., je pense que là, on aurait pu trouver des solutions. Mais là, il est temps que les concernés eux-mêmes prennent le débat, en fait, soit écoutés sur ce sujet.
Oui, on est en train de se faire engueuler là derrière nous par les gens du collectif, rien du tout. Parce qu'on n'a pas évoqué la question de la 480, évidemment, qui est bien sûr une question centrale, qui, quelque part, reprend en cause une série de ces questions-là. C'est en effet, qu'est-ce qu'on privilégie aujourd'hui? Est-ce qu'on va rajouter de la route? On sait très bien que ça va rajouter de la voiture pour développer les déplacements. Ce qui veut aussi dire qu'on va s'adresser à une partie de la population qui peut se déplacer, qui va habiter en périurbain et qui va venir travailler à Grenoble ou l'inverse. Ou est-ce que, encore une fois, on met les moyens dans les choses qui sont permettent au maximum de gens de se déplacer de façon gratuite et rapide? Et autre question, la question du lien avec les luttes. C'est-à-dire qu'en effet, cette question de la 480, il est nécessaire d'encourager et développer ceux et celles qui s'y opposent, qui se battent sur le terrain pour empêcher ce projet-là. Et là encore, on ne va pas passer notre temps à faire le bilan de la majorité fiole, mais là encore, c'est évidemment caricatural. Il n'y a aucune opposition à ce projet-là. Au contraire, il y a le fait de participer de façon même presque enthousiaste à son mise en place au sein de la métro.
On parlait de la campagne, on est quand même à une dizaine de listes. Vous disiez que ça ralentit un peu le fait de devoir consulter, discuter. La dernière réunion de joie, elle est programmée pour le 15 février. Il vous restera un mois de campagne. Vous n'avez pas un peu peur que ce soit... il faudra tout donner à ce moment-là pour rassembler. Comment vous voyez les choses?
En fait, je pense que le mois là qui s'annonce servira aussi la campagne. C'est-à-dire que, je pense que Grenoble sera couvert d'affiches jaunes. Et donc, à partir de ce moment-là, ça sera dans les têtes. Et puis, les débats, ils commencent dès le 25 janvier. Donc, on va pouvoir discuter programme sans décider quelque chose. Mais ça n'empêche pas de parler, ça n'empêche pas de débattre. Ce que ne font pas beaucoup les autres.
C'est vrai que le fait de fonctionner en co-construction de A à Z, ça motive vraiment les gens et du coup, je pense que nos forces ont peut-être démultipliées sur la dernière ligne droite et qu'on est beaucoup de militants en plus, alors quand on s'y met, ça va jamais.
Comment vous pouvez évoquer un peu le secteur économique, ce point-là, l'économie, c'est un sujet souvent de campagne, l'économie et l'insécurité, est-ce que vous l'avez déjà abordé lors de vos échanges, forcément ceux qui arrivent en premier, hein, on a évoqué la démocratie directe et l'écologie et sociale. On va vous parler de sécurité et économie à un moment, hein, c'est sûr. Bon.
Il est là.
Sur la question sécuritaire et policière, alors là, encore une chose sur laquelle on a pas mal de choses à discuter entre nous et sur laquelle, pour l'instant, on a commencé à avoir un petit peu d'avoir les assemblées. Après, il y a quand même une chose qui est une évidence, c'est qu'aujourd'hui, lorsque, notamment dans les quartiers, on détruit les services publics, on fait disparaître les bibliothèques, on détruit du lien social, on a une politique qui, à ce niveau-là, ne peut que créer de la tension sociale. Lorsque, face à des manifestations populaires, pendant la loi travail, par exemple, on a la police qui intervient sur demande de la mairie, ça ne peut que créer la violence et ça ne peut que créer de la tension sociale. Donc à un moment donné, la vraie réponse à la question de l'insécurité, et ça c'est le fond du problème, c'est le fond de la question, c'est les politiques intégrantes, les politiques sociales, les politiques de démocratie directe qui fait que les gens participent et sont partie prenante de la vie sociale et de la société. Voilà, je crois que c'est vraiment l'élément essentiel que nous on va défendre. Et en effet, on ne se laissera pas, en tout cas ce qui est certain, c'est qu'on ne se laissera pas embarquer sur un terrain qui serait le terrain de
il y a besoin de plus de police, de plus de machins, de la peur dans la ville, etc. Ça, c'est vraiment pas notre terrain à nous. Et je pense que malheureusement, c'est un terrain qui va arriver, vous avez raison de le signaler, c'est un terrain qui va être labouré, on le sait très bien, par la plus grande partie des autres candidats et candidates. Voilà, on sait très bien que là-dessus, que ce soit Carignan, Chalas ou autre, ils vont mettre la pression là-dessus. On sera au contraire une force de résistance sur ces questions-là.
Moi, sur la partie économique, moi, je suis un peu opposée à par exemple, à ce que dit Noblecourt, quand il parle de croissance. Parce que quelle croissance il parle? La croissance, on voit ce que ça provoque. Ça provoque un désastre écologique majeur. Il y a des millions d'espèces qui disparaissent. Donc c'est sûr que nous, on ne va pas promouvoir des grands groupes capitalistes. Après, on n'a pas la main mise sur la politique industrielle au niveau national. Mais nous, on n'ira pas dans ce sens-là, comme donner des subventions à des grands groupes. Voilà. Et on a pas mal de projets, mais ça va être discuté éventuellement, ceinture maraîchère, qui sera géré par une régie communale. Ça va créer un certain nombre d'emplois, parce que voilà, c'est quelque chose qui est assez important à mettre en place. On a pas mal d'idées d'emploi aussi en faveur des besoins primaires des êtres humains, c'est-à-dire s'occuper des enfants concrètement, la crèche, en direction des personnes âgées, etc., recréer des solidarités. Donc ça pourrait passer aussi par récupérer, entre guillemets, des emplois comme vous. Et ça passerait aussi par une lutte contre l'austérité, parce qu'on ne voit pas pourquoi l'État diminue les dotations aux communes, alors que dans le même temps, par le biais de processus comme le CICE, il y a de l'argent qui part en direction des grands groupes et donc in fine des actionnaires. Donc il y aura une vraie bataille politique contre l'austérité, on ne va pas accepter ça. Et il y aura aussi la volonté d'aider les projets économiques locaux qui seraient des projets utiles, comme par exemple, je pense au Ripper Café, des épiceries associatives, et là, ça passerait par des arbitrages au niveau budgétaire, la mise à disposition de locaux, la mise en relation entre les différents acteurs de ces milieux-là.
Mais encore une fois, en fait, toutes ces questions-là, elles sont vraiment débattues, donc elles seront peut-être invalidées. Elles seront peut-être corrigées, elles seront peut-être et voire même il y aura d'autres propositions sur la table et on l'espère. Et donc à partir de là, en fait, c'est quand même très dur de tenir en gros des positions entre guillemets. Là, il faut attendre le 15 février pour que des choses soient arrêtées complètement. On peut vous donner notre sentiment, notre sensibilité, mais ça va pas au-delà. Et je pense qu'il faut vraiment l'entendre comme ça, quoi. Une question.
Et j'imagine que le but c'est quand même d'avoir élu et avoir la majorité lors des élections, mais si jamais vous n'atteignez pas le second tour, comment s'organiser en fonction de quoi ce sera?
C'est dans le manifeste.
C'est bien une question pour se poser, y compris entre nous, dans la mise en place, il y a l'important, c'est essentiel pour nous, on soit en accord là-dessus, parce qu'on ne peut pas faire une campagne ensemble, ça serait permettre.
Peut-être, avant de répondre, ce qu'on vit, c'est être majoritaire, quand même.
Voilà, après, je ne peux que relire ce qu'on a mis dans le manifeste, hein. On est conscient et conscient de la nécessité d'un renouvellement démocratique, après élection tout au long du mandat, non pas dans le trône de ligne, évidemment. C'est la façon pour lui possible avec la finition aux règles de gestion actuelle. Nous ne ferons aucune alliance électorale. Nous avons fait les élections sur des batailles collectives. Nous ne ferons pas d'alliance électorale aussi. Alors, je pense que renouveler la démocratie et faire une démocratie directe, on ne peut plus revenir sur les votes utiles. Pour nous, c'est plus possible. Les Gilets jaunes l'ont bien souligné. C'est-à-dire qu'il faut tenir ferme, c'est-à-dire. Dans les grands affrontements, Piolle par exemple,
Carignan,
voilà, en fait ce sont deux adversaires qui ont besoin l'un de l'autre pour s'identifier, etc. Expliquer. Nous, on ne va pas rentrer dans ce grand débat. Voilà,
on a des positions, on les tiendra, et les alliances, en fait, obligent à faire des compromis pour pouvoir avoir un petit brin de pouvoir et avoir quelques élus et quelques adjoints, par exemple. Hein. Dans notre groupe, on a fait une petite marche avec le PCF hein, pendant 3 mois. Finalement, ils ont rejoint l'équipe Piolle à notre grande désarroi, voilà, mais c'est que leur choix. Donc, nous ne ferons pas ces choix-là. Voilà. Donc, il y a des composantes très diverses entre nous, mais on s'est au moins mis d'accord là-dessus. Alors, la diversité est très grande. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a des syndicalistes qui sont dans cette liste, qui ont été d'ailleurs un peu ceux qui ont poussé à faire qu'elle existe. Il y a deux élus que vous connaissez, ça c'est facile à dire. Il y a des...
Qui ne sont pas forcément sur la liste.
Qui ne sont pas forcément sur la liste, hein, parce que c'est vrai que vous, les journalistes, et puis la population aiment bien identifier symboliquement les têtes de liste. Donc, on m'a beaucoup posé la question, et à Bernadette aussi, est-ce que vous allez conduire une liste? Et notre réponse, c'est de dire non, nous ne conduisons pas une liste, nous allons promouvoir une liste, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des partis politiques, ensemble, le NPA, il y a même des gens de la France Insoumise qui sont dans cette liste, on peut vous le dire, il y a de plusieurs groupes, même de la France Insoumise de Grenoble, même si soutient la liste de Piolle, voilà, c'est une réalité. Il y a des gilets jaunes qui sont dans cette liste, avec qui on a beaucoup discuté, qui ont fortement orienté le programme. Et évidemment, il y a des gens qui sont dans Alternativa, dans des mouvements écologistes, et des gens qui sont dans le milieu associatif, et des gens qui ne sont pas encartés, il y en a aussi un grand nombre. Voilà. Donc il y a une très grande diversité. Je pense qu'on ne peut pas nous coller une étiquette véritablement. Hein, voilà, on est un grand éventail de ce qui vit et ce qui bouge dans Grenoble.
Avec une couleur quand même.
Pardon ?
Avec une couleur qui n'a pas été choisie par hasard.
Voilà. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison parce que pour nous, c'est un fait majeur quand même dans la politique nationale. C'est l'émergence de ce mouvement des Gilets jaunes depuis un an. Donc, évidemment, c'est fortement coloré.
Mais c'est aussi la couleur de l'urgence.
Oui, voilà, pardon. Oui.
Alors, juste pour dire qu'il y a effectivement des gens qui appartiennent à des groupes divers et variés, mais la plupart des gens, enfin, pour beaucoup, sont là individuellement aussi. Donc, on essaie de répondre à votre question en disant leur identité politique, entre guillemets, mais il y en a beaucoup qui sont là à titre personnel, enfin, parce qu'ils sont engagés, en fait, et pas parce qu'ils sont membres de ça et de ça. Il y en a d'autres qui sont là aussi pour ça. Mais il y a un gros mélange de ce point de vue-là, quoi.
Il y a un des principes qui ont été retenus, c'est qu'on ne fera pas une soupe au civet. C'est-à-dire que dans notre communication, on ne marquera pas, on n'identifiera pas les groupes politiques dont des militants sont présents sur cette liste. Par contre, quand la liste va s'établir, qu'on aura choisi les candidats, bien sûr, on sera transparent. C'est-à-dire un tel ou une telle, elle se présentera, elle sera
membre
d'associative ou d'Alternativa ou membre de tel parti. Bien sûr, ça, on ne cachera pas. On n'a pas à être... on n'a rien à cacher, mais on n'affiche pas nos sigles en bas de notre communication parce que ce n'était pas ça l'essence de cette initiative. Voilà, donc...
Donc, comme vous l'avez bien compris... nous n'avons pas d'argent pour faire cette campagne. Nous avons des forces militantes. Nous n'avons pas de grands partis, de grandes entreprises, de sponsors en tout genre derrière nous. Donc nous faisons un appel aux dons pour tous ceux qui voudraient que notre liste puisse réussir encore mieux. Voilà. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre quand même.
Voilà. On peut quand même en parler. En fait, les campagnes Les grosses campagnes, c'est de l'ordre de 150 000 à 200 000 euros. Hein.
190 000 euros piolle
voilà,
en 2014.
La campagne de piolle en 2014, 190 000 euros. Voilà. Nous, le budget qu'on essaie d'établir, c'est un budget à 10 000 euros. Donc, évidemment.
Voilà. Donc, mais on gagnera.
Bah, pour l'instant, non, on aimerait bien parce que c'est.
On cherche, on cherche.
On cherche, c'est très utile, mais voilà, il faut. Voilà, sur le matériel minimum de campagne déjà officiel, on est presque à 5000 euros obligatoires, hein, les bulletins, les propositions de foi, les affiches officielles. Sur le reste, bah, on remet à peu près 5000 euros. Trouver un local pour 2 mois, oui, il faudrait qu'on trouve quelque chose. Qui soit un peu cher. Et puis, symboliquement aussi, on ne peut pas se placer n'importe où. Hein. Donc, on cherche à la périphérie. On n'a pas envie de se retrouver au centre-ville comme toutes les grosses listes font. Voilà. Donc, on va chercher.
Ah, on est en train. D'autres questions
Oui, parce que de passe à la vie même, est-ce que vous avez des points déjà de réflexion sur une politique vraiment sur les quartiers populaires?
Enfin, dans ce sur quoi on est déjà intervenu, j'ai envie de dire quelques-uns de ces points-là, en tout cas par défaut, on les a avancés, ça, on a fait l'accès à la culture. En remettant en cause, par exemple, la fermeture d'une bibliothèque comme Crémol, la question du logement, qui évidemment est au cœur, que là aussi on a évoqué à plusieurs reprises. Donc, oui, il y a une question et une attention spécifique à ça, ça c'est une évidence. Cette question de l'articulation économique, sociale, écologique, je pense que les quartiers populaires font vraiment partie des endroits dans lesquels elle est centrale, dans lesquels elle est essentielle. Cette question de la démocratie à la base, là encore, et ça arrive sur la Ville Neuve, par exemple, on est quand même ici sur un quartier qui a une tradition de construction justement de vie associative, de vie citoyenne, donc j'ai envie de dire que ce n'est pas non plus un hasard aussi si on est au patio pour ça. Après, encore une fois, là, on a déjà répondu à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on va avoir parmi nos assemblées populaires trois d'ailleurs qui se passent dans les quartiers plus populaires, d'accord, que ce soit Saint-Bonneau, que ce soit la Villeneuve, que ce soit l'Abbaye, et la dernière qui aura lieu à la Villeneuve, l'assemblée qui va. Donc j'ai envie de dire, on attend aussi et on espère aussi une participation la plus large possible. Les habitants et les habitantes du quartier et de ces quartiers populaires, parce que c'est avec eux et avec elles qu'on a envie de faire cette campagne. Et une partie de ce qui sera en termes revendicatifs, propositions concrètes, là encore, on ne va pas arriver en les attendant en haut, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Donc on a vraiment besoin d'écouter, d'échanger à ce moment-là.
Oui, ces dernières années, il y a eu une lutte qui était assez importante, c'est pour le maintien des bureaux de poste. Et moi, je crois qu'on va continuer à se battre pour qu'il y ait des bureaux de poste dans tous les quartiers de Grenoble, parce que ça mène vraiment la vie, et je pense que tous les quartiers ont un potentiel à Grenoble et qu'on doit tous les valoriser.
Oui. Oui, et puis je pense qu'il y a un point aussi qui est très important à souligner, c'est par rapport aux immigrés qui sont là depuis... des années, souvent 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans, mais qui n'ont pas la possibilité de vote alors qu'ils participent pleinement à la vie active de la société, payent des impôts, contribuent au bon développement économique de notre pays, mais qui n'ont pas droit au vote. Donc je pense que c'est un sujet aussi sur lequel nous allons beaucoup travailler avec les intéressés eux-mêmes, comme on a toujours dit. Et puis, effectivement, tout faire pour que leur voix aussi soit entendue et qu'ils puissent participer à la vie politique, sociale et démocratique et écologique.
Oui, donc pour les quartiers, souvent on nous dit, grâce à l'ANRU, nous allons ouvrir les quartiers sur la ville. Mais pourquoi détruire des immeubles? Pourquoi détruire ces habitations? Il manque des logements à Grenoble. Et pourquoi pas ne pas faire connaître les quartiers aux habitants de Grenoble? Parce que beaucoup de personnes qui habitent dans le centre-ville ne sont jamais venues. Par exemple, à la Villeneuve, ce magnifique parc Verlat, peu de gens le connaissent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu le projet de construire le grand stade, on entendait des personnes interviewées en centre-ville qui disaient « Oui, mais on va abîmer l'unique parc de Grenoble, magnifique parc. » Moi, j'étais catastrophée, parce que ce parc derrière nous, qui nous accueille, il est super beau, il est très bien entretenu. Et pourquoi ne pas faire venir les personnes à la Villeneuve, à l'abbaye, enfin dans tous ces quartiers, à l'occasion d'événements, notamment l'été au parc. Depuis des années, ça se déroule dans le parc autour de la mairie. On sait que 50% des personnes qui fréquentent l'été au parc ne sont pas habitants de Grenoble. Que les gens des quartiers ne viennent pas l'été au parc, parce que c'est loin de chez eux. Pourquoi ne pas, justement, faire l'été au parc, quelques semaines à la Villeneuve, quelques semaines à Mistral, etc. Faire tourner à Pompidou, oui, qui est un magnifique parc aussi, très peu connu aussi. Et pourquoi pas, pourquoi le faire systématiquement autour de la mairie
C'est là où il y a le château.
C'est là où il y a le château, c'est vrai. Et justement, c'est l'occasion de faire venir les habitants pour qu'ils connaissent ces quartiers, pour qu'ils voient comme ils sont beaux. Voilà.
Merci bien.
Merci. Je regarde celui-là, je ne peux pas faire de bêtises. D'accord.
Bruno ?
Ouais.
Ou alors, je ne sais pas. Oui, ça peut être.